6h-10h, le grand matin Sud Radio.
Et 9h-20, c'est l'heure de la revue de presse. Qu'est-ce qui fait parler ce matin? On retrouve Félix Mathieu. Rebonjour Félix.
Rebonjour tout le monde.
Rebonjour Félix. Toulouse, la bonne nouvelle d'Airbus, titre la dépêche du midi.
Et oui, disant percevoir une reprise du marché, l'avionneur annonce qu'il relance son projet de moderniser une de ses lignes d'assemblage, ce afin de pouvoir y construire des avions de la famille A320, un soulagement pour les élus locaux et les syndicats. Des avions aux voitures, qui sont les fous du volant? Une grande question du côté de Midi Libre, avec un dossier sur les incivils. Insultes, téléphone, alcool. À la veille de ce long week-end de l'Ascension, Vinci Autoroute publie son baromètre des comportements région par région, où l'on apprend d'ailleurs que les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les champions de l'insulte au volant à 70%, suivi de l'Île-de-France et puis des Hauts-de-France. Alors à l'inverse, les bons élèves, c'est dans les Pays de la Loire et la Normandie qu'on s'insulte le moins au volant.
Une question à la une de Libération, les JO de Tokyo sont-ils chaos?
Et oui, à 2 mois du début des épreuves, et alors que le Japon fait face à une 4e vague de Covid. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer l'annulation de ces Jeux Olympiques. Un dossier à retrouver dans Libération. L'incroyable potentiel d'Audrey Fleurot à la une d'aujourd'hui en France, Le Parisien. Ce soir sur TF1, la comédienne bat tous les records d'audience dans la série HPI. Alors ça vous concerne, Philippe et Laurence. Haut potentiel intellectuel. Série qui met en lumière les 2,3% de la population dotée d'un QI, d'un quotient intellectuel hors norme. À lire d'encore ce matin, ce statut jox qui a bousculé les institutions. Il y a 30 ans, l'Assemblée nationale votait le 2e statut particulier de la collectivité territoriale de l'île, de la Corse.
Le Point imagine Valérie Pécresse présidente.
Et oui, et si c'était Valérie Pécresse avec une photo de la présidente de la région Île-de-France, Le Point qui l'imagine en présidente de la République, référence à peine voilée d'ailleurs à cette une du Nouvel Observateur en 2006. Et si c'était elle, c'était à l'époque à propos de Ségolène Royal, quelques mois avant qu'elle ne soit choisie comme candidate du PS. Cette fois donc, c'est Valérie Pécresse et c'est dans Le Point.
Paris défend son titre, nous dit l'équipe.
Avec cette une à propos des demi-finales de la Coupe de France face à Montpellier, victoire des Parisiens au tir au but après un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Mal parti pour remporter le championnat, la Ligue des Champions. Eh bien, le PSG peut encore conserver le trophée de la Coupe de France après avoir souffert tout de même pour éliminer Montpellier. C'est ce que nous dit l'équipe. Et puis d'ailleurs, du foot toujours à la une de La Montagne, les Clermontois cette fois, la Ligue 1 leur tend les bras grâce au match nul de son rival toulousain en match en retard hier soir. Eh bien, le Clermont Foot a devant sa télé mis un pied et 4 orteils en Ligue 1. La montée devrait être validée lors de la dernière journée samedi à Caen. Il ne reste plus qu'une chance mathématique infime de voir cette Ligue 1 échapper au Clermontois, nous explique La Montagne. Une montée qui va constituer une première historique pour le club de Clermont-Ferrand.
Vu les cartes de but entre Clermont et le TFC, il n'y a aucune chance pour le TFC qui sera barragiste et on leur souhaite bonne chance à nos amis toulousains. Merci Félix Mathieu. Bonjour Patrice Maggio.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes directeur adjoint des rédactions de Nice Matin. La une de Nice Matin, les épicuriens, oui, ils dressent la table. Le compte à rebours est lancé avant réouverture et Nice et Cagnes vont épauler les restaurateurs.
Oui, on a hâte, effectivement. D'abord, il fait un temps magnifique sur la promenade des Anglais et il y a un plan de déconfinement très précis qui a été établi par les communes par commune, pratiquement. Alors, on est en train, effectivement, de sortir les décamètres pour pouvoir aménager les terrasses. On voit bien quand même que les protocoles évoluent quasiment de jour en jour. Mais ça sent bon. La réouverture, pour autant, c'est pas encore la fête sur le front de l'emploi. Hein. C'est un secteur qui emploie beaucoup de gens dans notre région, mais pour l'instant, les chefs d'établissement, les patrons sont assez prudents. On a une étude d'ailleurs sur les secteurs qui recrutent dans les Alpes-Maritimes, et on a surtout pour l'instant besoin d'infirmières, de babysitters, de camionneurs. En fait, toutes ces professions qui ont beaucoup souffert pendant la crise et pendant le confinement et qu'il faut aujourd'hui remplacer.
Une autre chose en une de Nice Matin, il y a Albert Spaggiari, on l'a bien connu à Nice, ça fait des émules, une bijouterie dévalisée là, pas par les égouts mais par le plafond.
C'est assez incroyable. C'est une bijouterie d'ailleurs que je connais bien, qui est près de chez moi pour tout vous dire. Et alors qu'elle était très sécurisée de l'extérieur, en fait, les cambrioleurs sont passés par les toits, ils se sont installés dans l'appartement vide qui était au-dessus de la bijouterie. Ils ont pris leur temps pour creuser, pour effectivement créer cet énorme trou dans le plafond que le bijoutier a découvert le matin à son arrivée. Et évidemment, il en est très malheureux.
Et puis pour terminer, une interview exceptionnelle dans Nice Matin, Didier Deschamps À moins d'un mois du coup d'envoi de l'euro, j'essaye de maîtriser mes émotions. Ça ne doit pas être facile sur le banc de touche de l'équipe de France de les maîtriser, ces émotions.
Bah nous, on est très attachés à Didier Deschamps parce que d'abord, il a beaucoup d'attaches dans notre région. Et effectivement, là aussi, même si c'est encore dans un mois, on a hâte enfin de partager cet événement, si ce n'est planétaire, au moins européen.
Eh bien, merci beaucoup, Patrice Madjou, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin. Là, on va recevoir les Griezmann et Mbappé de Sud Radio, Françoise Degois et Eric Revel.
Ah ben voilà. Ah non, non, moi, non, pas Griezmann.
Bah qui alors ?
Zizou.
Oh, mais il joue plus.
Mais je m'en fous, Forever Zizou, voilà, c'est tout. Forever Zizou, on pardonne tout à Zizou. Son coup de boule, on lui pardonne. Voilà, Zizou Forever, c'est tout.
Allez, bah, on va en parler, tiens, et pourquoi pas, c'est l'heure du petit-déj. De l'actu à 8h46 avec re-Françoise Degois et re-Éric Revel. Et puis bien sûr, vos appels au 0826-300-300 si vous voulez réagir et échanger avec eux. On parle pas foot là ce matin.
Pourquoi pas ?
Bah, si vous voulez, je sais pas, Éric Revel, ça vous inspire ou pas ?
Bah, il est bon.
Il est très bon en foot.
Ah, ouais, d'accord.
PSG à chaud là, ça va plus du tout. Match nul contre Montpellier hier 2-2 en Coupe de France,
c'est minable, on peut le dire.
C'était minable que PSG se fasse également sortir de la Coupe de France, Françoise.
Ah, ça serait très drôle. Moi, pardonnez-moi, moi, vous savez, à jamais les premiers, vous connaissez ma rengaine. C'est qui le club qui est le seul à avoir eu la Coupe aux grandes oreilles? Dites-le en cœur.
L'OM.
Bravo.
J'avoue, j'y connais strictement rien, je suis désolée. L'OM. Alors, vous voulez réagir sur quel sujet? On a parlé tout à l'heure, voilà, ce projet de loi sur le séparatisme, la question du voile, la majorité divisée, la semaine calamiteuse, comment vous l'aviez dit
Crépusculaire. Je ne sais pas si Éric Revel est d'accord avec moi, mais voilà. Je pense qu'on a quand même eu une semaine très dure pour l'exécutif sur tous les plans. Allez-y, Éric, je vous en prie. Moi, je pense que
j'allais
là,
vous faire plaisir, Françoise. J'allais dire qu'en matière de machiavélisme politique, n'est pas Mitterrand qui veut, voyez.
Ah bah c'est super, parce que c'est exactement ce que j'ai pensé.
Et pour le coup, Emmanuel Macron montre ses limites. Hein.
Oui, tout à fait. On l'avait dit, vous vous souvenez, la semaine dernière d'ailleurs, avec Éric Revel, il ne fallait pas être grand clair pour deviner que, de toute façon, l'opération en Provence-Alpes-Côte d'Azur allait être un désastre, non seulement pour Emmanuel Macron, risquait d'être un désastre également pour Renaud Muselier. Et il est évident que le sondage, les deux, parce qu'il y a un Ipsos aussi, mais en tout cas l'IFOP pour Fiducial, Sud Radio et Figaro, eh bien ce sondage est désastreux pour Renaud Muselier. Dans tous les cas de figure, fusion avec la REM ou pas, eh bien il est battu au second tour par Thierry Mariani, parce que contrairement à 2015, je pense que la gauche ne fera pas ce cadeau à Renaud Muselier, et donc en fait à Emmanuel Macron de se retirer au second tour. Donc on a une situation qui est c'est une forme de c'est du Machiavel au petit pied, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, ouais, sans troupes, sans électeurs, ou très peu d'électeurs en tout cas dans les régions, sans assises régionales, sans assises locales, a voulu être le maître du jeu de ces régionales, et il risque évidemment de se retrouver cul par-dessus tête, parce que c'est la même configuration en réalité. Et là où je suis, pardon Éric, je finis, là où je suis très sévère, c'est qu'enfin de croire, et on continue dans les commentaires de nous expliquer qu'Éric Dupond-Moretti va chasser, d'ailleurs je trouve que c'est une expression assez terrible de la part d'un garde des Sceaux, aller chasser le Rassemblement National, je trouve ça vraiment limite, très violent et surtout pas très efficace. La réalité, c'est qu'il va chasser Xavier Bertrand. En réalité, l'opération Dupond-Moretti, c'est on tente le strike au bowling, c'est-à-dire que officiellement on va chasser le Rassemblement National, mais en réalité on veut faire chuter Xavier Bertrand. Et je trouve que c'est d'un cynisme mitterrandien, mais le génie en moins, la médiocrité en plus.
Wow. Éric Revel.
Écoutez, je suis de nouveau totalement d'accord avec Françoise. C'est un fiasco politique pour La République En Marche. Dans le Sud, mais pas que dans le Sud. C'est vrai que Dupond-Moretti, il est là pour faire chuter Bertrand, il n'y a pas de doute. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Bruno Retailleau et Éric Ciotti, qui incarnent l'aile droite des Républicains, vont jusqu'à demander le retrait de l'étiquette Les Républicains pour Renaud Muselier, qui risque, enfin ça ne se passera pas, mais ça veut dire qu'il est non seulement il est en grand danger, mais qu'une partie des leaders des Républicains ne veulent même pas que ce fiasco possible pour Renaud Muselier s'accompagne de l'étiquette Les Républicains. Ça veut dire que c'est, je pense qu'il s'est laissé embarquer dans un truc, Renaud Muselier, qui l'a un peu dépassé, poussé par Christian Estrosi, maire de Nice, et Hubert Falco, maire de Toulon. et que là, il est de plus en plus seul, me semble-t-il, et que si les sondages se révèlent exacts, si c'est Thierry Mariani qui l'emporte, ça va être dans le Sud quand même un tremblement de terre et aussi un tremplin potentiel pour la présidentielle et pour Marine Le Pen, parce que la région Sud, hein, l'ex-région PACA, c'est quand même une très très grosse région hein, qui va de Menton, Nice jusqu'à Marseille, tout le sud de la France. Et là, ça aurait valeur, ça va marquer les esprits. Donc, La République En Marche est partie sur son fier destrier, lance à la main, en claquant le home pour bouter hors de la région sud le Rassemblement National. Et résultat des courses, La République En Marche a cassé sa lance, s'aperçoit qu'elle est installée sur un poney, et en guise de home, un petit mirliton avec un petit chapeau de fête.
On a l'impression, ouais, c'est moins joli que Sancho Panza avec Don Quichotte, tu vois. Parce que moi, il y avait un objectif noble, tu vois. Moi, je préfère que quelqu'un qui va chercher les moulins avant plutôt que tenter de piquer les hannetons comme ça. C'est vrai. Vraiment. On devrait quand même se révolter aussi parce que vous savez, en 86, Mitterrand, il tambouille. Évidemment que Mitterrand fait grimper et fait jaillir le Front National de l'époque pour briser la droite. Il joue, mais le problème, c'est que nous ne sommes plus en 86, et on voit bien qui c'est qui souffle à l'oreille, on voit bien les conseillers en communication de Christian Estrosi, on voit bien qui c'est, on voit bien le conseiller qui souffle à l'oreille d'Emmanuel Macron, Bruno Roger Petit, fasciné par Mitterrand, et bien avec sur le mode vas-y coco, regarde Mitterrand l'a bien fait en 86, sauf que nous ne sommes plus du tout en 86, et que depuis il y a eu deux fois le Rassemblement National dans une finale de présidentielle, et donc c'est un jeu extrêmement dangereux, et l'idée que, après tout, parce que c'est ça qu'il y a derrière, après tout, que le Rassemblement National gagne deux régions, ça devrait renforcer le message macroniste, moi ou le chaos, regardez, elle est aux portes du pouvoir, je pense que c'est l'effet inverse. Je pense qu'il y a une institutionnalisation, une présidentialisation évidemment, de Marine Le Pen, par le fait que pour la première fois dans son histoire, le Rassemblement National pourrait gagner deux régions. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça signifie. Et je crois qu'à l'Élysée, complètement hors sol, hein, je le dis moi, honnêtement, hein, les images d'Éric Dupond-Moretti en balade dans les Hauts-de-France, une espèce de campagne gazeuse, vous voyez, il y a une image lunaire ou gazeuse comme ça, pendant que, dans le même temps, on a le chagrin collectif, moi, le mien, le vôtre, de ce jeune policier, parce que mignon, gentil, flingué. C'est une percussion d'image. Je ne sais pas si quelqu'un se rend compte à l'Élysée qui travaille sur la communication politique autour d'Emmanuel Macron, si ce n'est lui-même. Il faut vraiment bien réaliser cette percussion d'un garde des Sceaux, le gardien de la justice, au moment où la justice est tellement attaquée en plus de ça, et tellement remise en cause, en question, qui se balade dans les Hauts-de-France pendant qu'on a ce drame. Il y a quelque chose là qui fait un effet, en communication politique, on appelle ça l'effet ciseau, et je pense que personne ne réalise ça à l'Élysée.
François Azéric, il y a pas mal d'appels, hein, au 0826 300 300 d'auditeurs qui veulent intervenir. On a Cédric qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Cédric.
Vous vouliez peut-être pas forcément parler de Macron, mais plutôt de la tribune des militaires, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. J'ai écouté un petit peu tout ce qui s'est dit, donc j'ai écouté la lettre qui a été lue par André Bercoff, complètement donc lors de son émission, et un soir, je ne captais pas là où j'étais, et j'ai écouté un reportage ou une émission qui était faite sur une radio concurrente, et en fait, ils se sont fait lyncher, il y a même eu une personne de la République En Marche, une députée, j'ai plus le nom en tête, mais qui commençait à dire qu'en fait c'était un montage du Rassemblement National, qu'en fait si les militaires, en fait ils étaient si francs, si honnêtes et si peu lâches, qu'ils donnent leur nom et tout ça. Je tenais juste à rappeler qu'en fait moi j'ai dans ma famille j'ai mon frère et j'ai mes neveux qui sont militaires de carrière, donc ils ont plus de 15 ans de militaires derrière eux et qui m'en ont parlé et ça fusionne dans les casernes, et on sait bien que si les noms sont nommés. On sait comment ça s'est passé pour la première tribune. Ils ont cherché à les traquer pour pouvoir les décapiter. Hein. Il faut être franc. En fait, un militaire qui fait quelque chose comme ça, en fait, du jour au lendemain, en fait, il est mis à la porte avec perte et fracas. Donc effectivement, il faut arrêter de stigmatiser en disant que c'est le Rassemblement national. J'y crois dur comme fer. Je sais pertinemment que cette tribune, elle est réelle. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, mon frère fait partie de certaines forces spéciales. Il a dû partir dans des pays étrangers pour faire des extractions. Et effectivement, un jour, il m'a dit, j'ai dû acheter mon paquetage moi-même pour partir. C'est quand même hallucinant.
On va peut-être intervenir Éric Revel. Cédric, restez avec nous. Éric.
Éric Revel. Éric. Oui, Éric, pour réagir aux propos de Cédric.
Oui. Bah, écoutez, je pense que, comme je l'ai dit, il y a deux choses. La tribune des militaires, la deuxième comme la première, reflète un malaise, on ne peut pas le dire autrement, de ceux qui sont garants de notre protection. Moi, j'y inclus les militaires qui sont en OPEX à l'étranger. J'y inclus aussi, évidemment, la gendarmerie, puisque ce sont des militaires, mais j'y inclus aussi les forces de l'ordre. Donc, il y a un malaise profond. Maintenant, je mets juste en garde sur une chose. C'est que le président de la République, non pas la personnalité du président de la République, mais le président de la République, la fonction de président de la République, donc de chef des armées, c'est un statut qui nous assure quand même une stabilité démocratique. Donc attention quand même à lorsqu'on conteste, encore une fois, il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre Emmanuel Macron, on peut être contre, comme on pouvait être contre François Hollande ou contre Nicolas Sarkozy, mais moi je réagis sur ce que représente le chef de l'État dans la Constitution française, et donc le chef des armées.
Absolument exact.
Donc attention juste quand même à jouer d'une certaine manière avec le feu. On risque d'affaiblir encore une fois, non pas celui qui est le locataire ou celui qui est à l'Élysée, mais le statut lui-même, qui n'a déjà pas besoin de ça pour être affaibli. Donc attention, parce que ne l'oublions jamais, le chef de l'État, c'est le chef des armées. Et quand on rentre dans ce genre de débat, il faut toujours faire extrêmement attention à ne pas déstabiliser l'un des piliers forts, quand même, de la démocratie française. On est dans une république, on a un chef de l'État qui est élu. Quand on n'est pas content, ben, on vote différemment 5 ans plus tard.
C'est très juste ce que dit Éric Revel. Je suis absolument d'accord avec 100%. Moi, je suis très. Je trouve ça très malsain ce qui est en train de se passer. Mais ça nous rappelle aussi que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la république et la démocratie, c'est quelque chose sur lequel on doit veiller. Vous comprenez ? Je ne dis pas du tout qu'elle est en danger, mais il faut veiller en permanence.
Ça reste
quand même si nous avons une longue histoire, même si ça reste quand même fragile, il faut être très vigilant. Taper sur parler au nom des armées, taper sur la justice matin, midi et soir, comme je l'entends, même s'il y a des fautes, il y a des trous dans la raquette. Taper sur la justice, taper sur l'armée, taper sur les institutions, taper en permanence, pas sur la personne, sur ce qu'est la carcasse, c'est extrêmement dangereux et malsain.
Allez, Françoise Degoy et Éric Revel ont poursuivi cette conversation dans le pied d'âge de l'actu après le journal de 9h. Restez avec nous, Sud Radio, il est 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Laurence Garcia.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez. À noter que d'ici un petit quart d'heure, notre invité, c'est Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière durant 14 ans. Il vient de publier un livre passionnant, bourré d'anecdotes, Mailly fait chuchotement, un syndicaliste dans les secrets de la République aux éditions Flammarion. Et il va nous raconter un peu la coulisse des négos syndicales. Je sens que ça va vous intéresser, Françoise Degoy, avec les 4 présidents de la République qu'il a vu passer. Et vous
je suis sûr qu'il y en a un qui préfère par rapport à tous les autres. Une question.
C'est la première question qu'on lui posera et vous verrez, c'est pas forcément un président de gauche.
On verra.
Éric Revel et Françoise Degoy et vos appels au 0826 300 300. On va parler tout de suite de l'extradition du baron de la drogue millionnaire Moudif Bouchibi avec notre invité qui est là avec nous en studio. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
On rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du grand banditisme et du renseignement et auteur notamment du livre Les narcos français brisent l'omerta. C'était chez Albin Michel.
Alors justement, Moudif Bouchibi, il a été arrêté le 25 mars dernier à Dubaï. Les chiffres sont absolument fous. Il a été extradé hier à Paris. Son trafic pouvait rapporter, certains disent, parce qu'évidemment, c'est pas déclaré avec la TVA, 70 millions d'euros pour certains, 100 millions d'euros par an, Frédéric Ploquin. C'est la masse salariale de 4 stars du PSG.
Absolument. Bah déjà, la première surprise, c'est que les autorités du Bayot interpellent cet individu.
Oui.
Je rappelle quand même que Dubaï est une espèce de havre de paix comme ça et de lieu de repli pour un certain nombre de nos, entre guillemets, barons. Déjà, qu'on utilise ce mot est intéressant. D'ailleurs, ils ont acquis une espèce de notabilité dans leur domaine.
Vu les recettes, ce serait plutôt des ducs ou des rois ou des empereurs plutôt que des barons. Hein.
Absolument. Mais donc tout d'un coup, à Dubaï, ils changent de fusil d'épaule. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que Moufid Bouchibi, qu'on appelle aussi Karim, Poteau, Le Parisien, Le Mouf, est quelqu'un qui a causé du tort au royaume du Maroc, puisqu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il s'est retrouvé impliqué dans une série de règlements de comptes au Maroc. Ça a dérangé le royaume chérifien, probablement, d'une part. D'autre part, il avait un mandat d'arrêt lancé par la justice française, par la justice de Bordeaux, en l'occurrence, sur le dos. Parce qu'il était considéré comme... il est encore innocent, hein, comme me le rappelait à l'instant son avocat. Mais il est considéré comme l'un des deux ou trois plus gros importateurs de cannabis en France. C'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui a 41 ans aujourd'hui, qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 1996. Il était dans l'Essonne, il est originaire de l'Essonne. Il est d'origine algérienne, il a grandi dans l'Essonne. Il s'est lancé au milieu des années 80... fin des années 80, dans les 90, pardon, dans les go fast, il a commencé à bouger comme ça. Et puis à un moment donné, il va se rapprocher d'un ami, à lui qui s'appelle Sofiane Ambly, qui va avec lequel il va s'associer. Ils vont devenir probablement les plus gros exportateurs de cannabis entre le Maroc et la France, brassant jusqu'à 60 tonnes par an.
De tels revenus.
Mais je voudrais vous poser 60 une tonnes par an, juste pour dire les chiffres. En gros, les consommateurs français, les Français consomment 40 tonnes de cannabis par an. Donc 60 tonnes, ça fait quand même une partie de l'approvisionnement annuel du marché français. Donc c'est énorme.
Les deux tiers. Les deux tiers, 40 tonnes par 60.
Et pour échapper, si vous voulez, à la justice française, il s'est effectivement replié sur Dubaï, mais là... Bon, je disais, il y a plusieurs problèmes. Il y a les problèmes avec le roi du Maroc, avec le royaume du Maroc. Mmh. Mais il y a aussi le fait qu'ils ne se tiennent pas forcément très bien à Dubaï et que les Dubaïotes aiment bien le calme et la sérénité, et qu'à partir du moment où ils en jettent un peu plein la vue, qu'ils commencent à circuler...
Oui, les show-off complètement, français, bien sûr. Il a un comportement show-off, bien sûr.
À se balader comme ça avec des véhicules de luxe et à faire un peu de grabuge. Disons que ça peut déranger, ça a dérangé, puisqu'aujourd'hui, donc, on le retrouve extradé vers la France, qui était... pour lui, totalement inattendu, parce qu'il se pensait en sécurité totale.
Oui, intouchable.
À Dubaï, intouchable. Ouais.
Non, mais c'est intéressant parce que votre François bouquin... Déjà, j'ai toujours apprécié lire les papiers de Frédéric Ploquin, parce que je trouve que, voilà, j'aime beaucoup la police-justice. C'est très intéressant. Les enquêteurs, les vrais enquêteurs, ce que vous êtes. Mais en revanche, je pense que votre livre s'inscrit complètement dans le débat politique actuel. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. C'est-à-dire que là, on est dans une décision de combattre le trafic de drogue. Alors, je parle sous votre contrôle, puisque vous avez les chiffres bien en tête. Il y a 4000 points de deal, en fait, en France, a priori, entre 3008 et 4000 points de deal. La politique répressive et de coup de pied dans la fourmilière n'a marché dans aucun pays. C'est clair, ça n'a marché dans aucun... Ça ne fonctionne pas. On a 1 million de consommateurs. Donc, je vous pose la question, puisque vous êtes très au fait de cela. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut sortir de la prohibition et enlever le marché aux trafiquants, c'est-à-dire légaliser le cannabis. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions, vous, à travers toutes les enquêtes que vous avez menées sur ce domaine que vous connaissez bien, est-ce que c'est une solution efficiente ?
En tout cas, derrière le cas Moufid Bouchibi, c'est vachement intéressant parce qu'on a toute la lutte contre le trafic de stupéfiants en France qui a explosé. C'est-à-dire que Moufid Bouchibi Moufid Bouchibi avait un ennemi, c'était donc ce Sofiane Ambly avec lequel il s'était associé. Ils avaient démarré ensemble, puis à un moment donné, Ambly tombe et l'autre prend la place et devient le numéro un. Qu'est-ce que fait Ambly ? Il va voir la police, il va voir l'office central de lutte contre les stupes, et il dit « moi je vais bosser avec vous ». Ambly dit ça, je vais bosser avec vous et on va faire tomber Bouchibi. Donc si vous voulez, c'est en gros, on s'aperçoit que même la lutte contre le trafic de stupéfiants, à un moment donné, est confisquée par ce duo qui veut se faire la peau.
Et donc, sur la question de la légalisation...
Ça montre un peu les limites.
Voilà, les limites de la base.
Les limites de l'exercice. Et donc, à tel point qu'on va même faire disparaître l'Office des stupes et le remplacer par un autre service et tout remettre à plat et à zéro. À partir de là, la question de la légalisation...
Ou de la dépénalisation, c'est pas tout à fait pareil.
La dépénalisation, elle peut se poser, mais si vous voulez, moi, je crois que le banditisme français, les trafiquants sont des gens qui sont très adaptables, et que si demain on égalise, ils vont aller sur autre chose.
Oui, mais qu'ils y aillent,
D'abord, si l'État prend en main, parce que l'État ne prendra pas en main le trafic de cocaïne, l'État peut
S'il est moindre, il est beaucoup moindre.
Il explose en France.
Oui, on est sur quoi ? 600 000 consommateurs de cocaïne.
Ce que je veux dire, c'est que si l'État prend en main le trafic d'herbe et de shit, qu'est-ce qui va se passer ? Les trafiquants, ils vont dire, OK, l'État, il peut vendre un shit et une herbe à tel taux de telle qualité.
De bonne qualité.
Nous, on va arriver avec une meilleure qualité, un produit plus fort. Donc, ils peuvent déjà se dire ça. Ils peuvent ouvrir de nouvelles perspectives économiques et financières en disant, nous, on va vendre de l'herbe plus forte. Deuxièmement, ils vont dire également autre chose. Ils vont dire, vous, l'État, vous ne pouvez pas vendre de l'herbe et du shit aux mineurs. Nous, on peut le faire. Or, le marché des mineurs, le marché est considérable, puisqu'on sait qu'on commence à fumer extrêmement tôt. Donc, de toute façon, même si on légalise, c'est sûr qu'on mettra peut-être un peu de beurre peut-être on bouchera, comme le disait un vieux voyou, vous allez boucher le trou de la sécurité sociale.
Non, mais c'est pas vrai, ça marche en Italie, ça marche en Espagne.
Non, mais je finis sur l'argent de la Sécu.
Non, parce que vous êtes en train de dire, en fait, ça sert à rien.
Donc, non, c'est pas du tout.
C'est ce que vous dites.
Non,
ça sert à rien.
Je dis que les trafiquants sont meilleurs que ce que vous croyez.
C'est-à-dire j'ai aucun problème sur la qualité des trafiquants.
Non, mais ils sont bons, ils sont professionnels. Ils vont pas se laisser avoir comme ça. Ça va les faire rigoler, Effectivement.
Non, vous dites que c'est inutile. Moi, je pense pas.
Vous êtes dans le concert de tous les gens qui disent
ça les fait marrer.
Non, je suis journaliste, moi, je suis pas politique. J'enquête et je vous donne des éléments de réflexion.
Peut-être intervenir Éric Revel, qui vous écoute, Frédéric Ploquin.
Oui. J'écoute. Alors, j'ai pas lu le livre encore de Frédéric, mais deux remarques, si vous le permettez. D'abord, la dépénalisation ou la légalisation du cannabis, moi je dis attention quand même, Françoise, extraordinaire danger potentiel, parce que vous le savez, beaucoup de jeunes en consomment. Alors je veux bien que ça fonctionne en Italie, en Espagne, je dis simplement que beaucoup d'experts montrent les liens d'une consommation de cannabis, entre consommation de cannabis et maladie mentale forte, notamment la schizophrénie,
Oui, mais l'inverse.
Donc je dis attention, parce que là, on est sur vous voyez, on a une approche, certains en tout cas, c'est sans doute pas votre cas, Françoise, mais une approche un peu festive, vous voyez, de ce
produit. Ah non, pas du tout, je déteste les joints.
Extrêmement dangereux. Qu'on parle de cannabis médical, c'est des choses que je peux entendre. Maintenant, quand on met le doigt dans un tel engrenage, et notamment dans notre pays, je suis très inquiet. Et puis une remarque quand même, c'est que quand on parle de Dubaï, de dizaines de millions d'euros de revenus annuels, vous voyez, on en fait, mon cher Frédéric, à votre corps défendant, évidemment, mais en fait des sortes de héros, des sortes de modèles presque. Et ça, c'est un danger extraordinairement fort pour nos jeunes. Alors, je passe pour un vieux ringard en disant ça, mais vous voyez, je préfère qu'on nous donne comme modèle Thomas Pesquet, à ces gens qui sont entourés d'étoiles à Dubaï et de millions de dollars.
Pauvre Frédéric,
ils sont pas de bons exemples. Pardon.
Mon idée n'est absolument pas là. Moi, vous m'invitez pour vous raconter qui est ce personnage. J'en fais pas un modèle. C'est pas mon modèle. Je ne suis pas fasciné par ce garçon. Simplement, il est extrêmement
passionnant à regarder.
Il est simplement extrêmement intéressant de constater que aujourd'hui en France, vous avez des trafiquants de stupéfiants minables au rez-de-chaussée qui tirent sur les flics, qui vous butent à la première occasion. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont des véritables chefs d'entreprise. Et ce Bouchibi, lui, il était à la tête d'un patrimoine. C'est pas l'admirer que de dire ça, c'est vous dire. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de l'argent que génère ce trafic. Donc ce Bouchibi est à la tête aujourd'hui, au moment de son arrestation, d'un parc immobilier absolument considérable. Il a des villas à Marrakech, à Casablanca, à Rabat, des hôtels en Algérie. Il a des biens immobiliers absolument partout. Il est à la tête d'une flottille de bateaux de pêche qui lui permet de faire transiter le cannabis marocain par dizaines et centaines de tonnes depuis le Maroc jusqu'en Égypte, jusqu'au Liban, pour contourner justement les contrôles en Méditerranée, lequel cannabis ensuite revient vers l'Europe. Donc c'est juste, voilà, vous dépeindre un peu le niveau auquel on arrive aujourd'hui en France. On n'est pas là, on n'est pas au Mexique ou en Colombie, hein. On est en France où on a des personnages de ce niveau-là aujourd'hui.
Frédéric Chauquin, comment est-ce qu'on fait pour blanchir, parce qu'on ne paye pas son shit avec une carte bleue ou un chéquier, comment est-ce qu'on fait pour blanchir 70 à 100 millions d'euros de billets par an?
Mais je vais vous dire,
parce qu'il y a craque-fin quand on va dans les banques, déjà on ne peut pas amener 100 000 euros comme ça.
Oui, mais en période de crise sociale comme on est aujourd'hui et de pandémie, l'argent, les espèces ont encore plus de valeur. Il y a toujours quelqu'un pour prendre vos espèces à un moment donné. Toujours quelqu'un, une banque peut-être qui va fermer les yeux, un établissement financier à Dubaï, à Hong Kong ou à Aruba. Qui va compter vos billets à la cave, les yeux fermés, avec un grand sourire, et peut-être que même si vous proposez de boire un verre de champagne à la fin, ça se passera comme ça, parce que l'argent appelle l'argent, et vous avez toujours cette possibilité-là. Après, vous avez des milliers de possibilités de blanchir, vous avez vraiment le blanchiment bas de gamme, vous achetez le fast-food du quartier, vous investissez dans un kebab pas très loin de chez vous, ça c'est vraiment le local. Et puis au sommet, vous avez des fiduciaires au Panama, vous avez la possibilité
au Caïman, vous avez les casinos aussi, qui blanchissent, c'est des véritables lessiveuses aussi.
L'argent sale devient vite gris et ensuite blanc. Et même, je vais vous dire, ils ont des moyens très traditionnels de blanchir cet argent, qui fait que l'argent ne bouge même pas. C'est-à-dire que vous allez dans une petite boutique en région parisienne avec un énorme tas de billets, un énorme sac de billets. Vous confiez ça au gérant du magasin, il compte, il garde l'argent, et votre argent, au même moment, 5 minutes après, par téléphone, hein, en direct, vous est restitué à Beyrouth, pourquoi pas en Chine, parce que les Chinois sont très, très amateurs de ce genre de choses, ou au Maroc. Donc c'est une espèce de système de compensation extrêmement artisanal qui fait que ça ne se voit pas. Les billets ne bougent même pas. Donc ne vous inquiétez pas, l'économie réelle aura encore besoin longtemps de l'argent sale, parce que ça représente tellement de milliards.
En une minute, vous faites des vies. En 30 secondes, donc vraiment, c'est terminé. J'ai vu, moi, la mutation, j'ai beaucoup travaillé sur la mafia dans une autre vie. Eh bien, j'ai vu la mutation, par exemple, de la mafia et de la Camorra et de la Ndrangheta. Ils sont passés des filles du port, etc., à Naples, au col blanc. Et donc, on fait transiter des millions en un clic.
Et tout est
expliqué. Vous ne savez pas faire ça, Philippe David?
Non, ça, je ne sais pas faire. Je vous appelais mafiosa.
Excellente série.
Et tout ça est très bien expliqué par Frédéric Ploquin dans son dernier livre, Les narco-français brisent l'omerta. C'est publié depuis février aux éditions Albin Michel. Merci Frédéric Ploquin.
Merci à vous.
Merci Frédéric.
Bonne journée à vous.
Et merci à Eric Revel. Allez, dans quelques instants, on reçoit Jean-Claude Mailly, notre invité, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, et on va parler de son livre Manif et chuchotement, un syndicaliste dans les secrets de la République. À tout de suite, Sud Radio, il est 9h19. Ciao.